avec Daniel Boudreau.
Daniel Boudreau est avec nous en ce beau lundi matin et il va répondre à vos questions sur vos sur les voitures. Si vous avez des questions, des besoins de conseils, de comparaison entre deux types de bagnoles, faites comme moi, vous lui demandez conseil, vous faites le contraire de ce qu'il dit. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai.
T'as pas fait le contraire.
Non, j'ai pas fait le contraire.
Hey, salut, bon matin.
Bon matin, Daniel. 670-9330 par téléphone. studio@fm93.com par courriel et évidemment 25226 par texto. Est-ce que Pascal, tu guettes aussi le Facebook?
Oui, ça vaut la peine? Une publication qui avait été mise hier. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire aussi par la page Facebook du FM 93.
Gênez-vous pas. Myriam, je veux commencer avec quelque chose de pas trop le fun parce que lorsqu'arrive l'automne puis que c'est le temps de préparer sa voiture pour l'hiver, c'est jamais agréable, c'est jamais le fun de prendre les pneus d'hiver, essayer de faire le changement, quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait pas, et aussi préparer sa voiture parce que seulement mettre les pneus d'hiver c'est pas suffisant. D'abord, lorsqu'on met les pneus d'hiver, il faut s'assurer de plein de choses. Si on le fait soi-même, il faut s'assurer d'avoir la bonne pression d'air et justement vérifier l'état des pneus visuellement, à tout le moins, savoir si tu as le bon niveau d'usure. Le fameux 2/32e, là, c'est bien important de
un
vérifier.
Un 25 cents là, dans
le
une
25
poche. Un 25
cents, puis de voir le nez de la reine. Alors, si vous faites tout ça...
Vous parlez d'affaires
que je comprends. Ah, c'est bon, ça, comme truc.
Mais, le 25 cents, Daniel, quand tu prends un 25 cents dans tes poches, tu regardes le nez du caribou.
Ouais, c'est le caribou, c'est vrai.
C'est ça,
c'est le caribou.
Oui. Là, ben, le nez du caribou, il t'indique pas mal la hauteur minimum que ton pneu devrait avoir. Si t'atteins pas le nez du caribou, ben, honnêtement, tes pneus, là, ça va mal.
Ça va mal. Mais des fois, tu vois le nez du caribou, tu dis, ah, parfait, je suis correct, tout est beau, au niveau de l'usure, ça va bien. Et tu regardes entre les lamelles, puis tu vois que des fois que le pneu est desséché, est craqué. Donc, inspection visuelle et aussi l'inspection du véhicule en même temps. Il faut rappeler peut-être que la date a changé aussi. C'est le 1er décembre, c'est plus le 15. Donc, ça arrive quand même assez vite. Et là, pour l'installation des pneus, c'est correct. Là, la température monte pas tellement. Donc, on peut pas avoir d'usure prématurée, même si on fait un peu de route avec ces pneus. On va les préserver. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Et les changements d'huile. Déjà posé dessus.
Les changements d'huile, au minimum, tu sais, ça prend une inspection sécuritaire du véhicule également. Mais le changement d'huile, c'est vraiment le minimum. Puis, si on est un peu zélé, on fait aussi le parallélisme, donc l'alignement.
Le filtre à air aussi, peut-être.
Filtre à l'air, filtre. On vérifie tout dans l'inspection sécuritaire. Donc, c'est important de oui, les liquides. Et le filtre d'habitacle également, qui est quand même quelque chose qu'on néglige souvent.
Poser, balancer, on doit faire...
Poser, balancer et aligner si c'est possible.
Okay.
Souvent, lorsqu'on coupe, c'est sur l'alignement. Puis c'est de valeur parce que c'est ce qui fait en sorte souvent que les pneus usent mal. Si ton véhicule n'est pas bien aligné, tu vas avoir de l'usure prématurée des pneus sur un côté ou sur l'autre, dépendamment de là où le véhicule est désaligné. Donc ça, c'est vraiment important de le faire faire.
Parlant de pneus d'hiver, Daniel, il y a Donald qui est là, qui a une question au sujet des pneus d'hiver.
Oui.
Allô, bonjour.
Bonjour, M. Boudreau.
Bonjour.
Je pour savoir, moi, je suis en marché d'acheter une Toyota Camry XSE, puis elle est chaussée en 19. Mm-hmm. Pour les pneus d'hiver, là, c'est-tu des 18 qu'on met un point plus petit ou deux points? Là-dessus, on me dit de peut-être mettre des 10 pouces. Je sais pas quel prendre.
Oui. Ben, écoutez, allez-y. D'abord, ce qu'il faut respecter, c'est la dimension hors tout. Si on reste dans la même dimension, on peut même descendre. Si on a le même diamètre de pneu, donc la règle du 3%, on a un petit jeu de 3%. Mais si on reste dans à peu près la même dimension, oui, on peut faire du... Parce que des profils très, très bas, lorsque tu mets des pneus d'hiver, donc en 19 pouces, vous avez du profil bas. C'est facile d'augmenter la dimension du pneu et d'aller chercher du moins 1, moins 2 pouces. Alors, ce qui est important, c'est de rétrécir la bande pour avoir plus de sécurité. Alors moi, j'ai pas de problème avec y aller soit moins 1, soit moins 2. Souvent, les 18 pouces vont être encore beaucoup plus chers. Donc, du 17 pouces, on sauve un petit peu. Si vous pouvez mettre du 17 pouces puis qu'on respecte votre diamètre, ça va être correct.
Est-ce que ça vient changer si tu fais pas la même dimension l'hiver que l'été? Est-ce que ça vient changer ton odomètre?
Ça vient changer l'odomètre. Et aussi, y a souvent... La dimension des disques sont de plus en plus grands. Donc, lorsqu'on rétrécit la roue,
tu vas plus vite ou moins vite que ce que ton odomètre indique?
Ça, je ne sais pas. Si on
mais ça dépend. Vite, c'est, ça dépend aussi de la grosseur du pneu. Si
tu fais plus de tours de roue si tu rapetisses. Ça, c'est certain. Okay. Que. Mais est-ce qu'on va plus vite ou moins vite? Ça, il faudrait faire le test. Ce serait intéressant.
Okay.
Je ne sais même pas.
Ça va, Daniel? Ça va, Donald?
Oui, ça va. Est-ce que c'est une bonne voiture, une Camry XSE?
Ah, je comprends que c'est une bonne voiture. Puis je suis content que vous... Vous n'êtes pas tombé dans la mode des VUS, c'est d'y aller avec... La catégorie des berlines intermédiaires, c'est, à mon avis, la meilleure catégorie. Puis je le dis souvent, c'est la catégorie où je sers à rien. Parce que il n'y a pas de mauvaise voiture dans cette catégorie-là.
Ah ouais?
C'est les véhicules les plus économiques, les plus fiables. Alors, la Camry, c'en est une, évidemment, des plus fiables. On le sait depuis fort longtemps. Alors, la XSE va vous gâter parce qu'elle a un style un petit peu plus sportif, elle est un peu plus belle. Chez Toyota, là, on s'est enfin décidé de mettre un peu de design là, intérieur, extérieur. Alors, elle est très belle. Vous avez qu'à faire l'entretien normal de votre véhicule. Moi, si vous voulez la garder longtemps, je sais pas si vous l'avez louée ou achetée, mais si vous voulez la garder longtemps en tirouille, on protège la carrosserie, vous allez avoir ça très longtemps. Et ça garde une très bonne valeur de revente, ceux qui magasinent les véhicules Toyota.
C'est ce qu'on me dit. Parce que j'ai vraiment un beau look avec l'intérieur rouge, là, puis le toit noir. Là,
oh, on se gâte, là. Vous êtes gâtés,
ouais,
là.
Il faut se gâter dans la vie, de temps en temps, ça fait du bien.
Parfait, c'est vrai. Vous
merci.
Avez raison.
Bye.
Bravo, bon achat.
Marcel te demande, que penses-tu de la Kia Soul 2020?
Mais je l'ai pas encore essayé. J'ai pas pu me rendre à Toronto sur le voyage de presse où on pouvait faire l'essai. Alors, au niveau visuellement, par exemple, là, on a gardé à peu près le même style. Ça, c'est la seule t'aime ou t'aime pas. Là. Tu la regardes, il y en a que tu peux faire n'importe quoi, mettre les phares plus minces comme ils l'ont fait maintenant. Ils l'ont modernisé, un petit peu arrondi, harmonisé l'intérieur avec le reste de la gamme qui est moins éclaté un peu que par le passé. Mais ça reste une voiture pratique. Si vous aimez le style extérieur, moi, ce que je trouve, c'est que sa petite boîte carrée en arrière, c'est logeable, c'est pratique.
Ouais.
C'est différent. Donc, vous avez une voiture différente. C'est un plancher Kia Hyundai qu'on connaît depuis longtemps. C'est une mécanique Kia Hyundai. Donc, très bien garantie. Si le modèle du véhicule vous plaît, allez-y. Puis en plus, elle est offerte en version électrique maintenant. Elle va arriver donc dans sa nouvelle mouture électrique.
Ah ben,
elle était déjà 160
km. Il me semble
que
les Théotaxis, il y avait beaucoup de Théotaxis sans...
Ouais, ils ont pris la mauvaise. Ils ont été un peu trop rapides, je pense, eux autres. Parce que là, il arrive la nouvelle génération et on passe de 160 km, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 380 km pour la nouvelle génération. C'est fort intéressant.
On va retourner au téléphone voir Claude André. Bonjour, Claude André.
Bonjour, Myriam. Bonjour, M. Boudreau. Bonjour, Alexis. Bonjour, Pascal.
Bonjour. Bonjour. Wow, on connaît la table.
Faites comme à Air Canada. On dit plus madame, monsieur. À cette heure, on dit tout le monde.
Faites attention, là, vous venez de réveiller, Pascal.
Ben, c'est ça. Moi, ça m'impressionne quand même. On m'interpelle dans une chronique auto.
Ben, c'est tous des amis Facebook. Bon. OK. J'ai deux petites questions rapides. Mm-hmm. La première, Pour le 25 sous pour les pneus, là, ceux qui commencent à avoir la vue un petit peu embrouillée sont bien mieux avec un 2 piastres.
Ah.
Il y a deux couleurs. Ça fait que c'est plus facile à faire la démarcation.
Ah, bonne idée.
Puis de toute façon, 2,32, c'est vraiment pas beaucoup.
Non, ça sollicite. Visuellement, tu le vois qu'ils sont finis.
C'est parce que ça sollicite beaucoup les systèmes adaptatifs là, de traction asservie et tout ça. Je pense qu'il y a un retard à ce niveau-là. Ma question, je voulais savoir l'opinion de M. Boudreau sur le Ford Ranger. Est-ce qu'il se compare aux autres petites camionnettes ou s'il est en avant?
Non, il n'est pas en avant. Il se compare. Mais il est pas en avant. On va attendre parce que nous, on a eu une génération là en cours de route parce que ce véhicule-là existait en Europe, surtout très populaire en Australie. Puis on l'avait pas ici. On voulait l'avoir. Et la prochaine génération qui va arriver l'an prochain, dans un an ou un an et demi, va être la mise à jour de ce véhicule-là. Il se compare avec un Colorado qui, lui, ici, va être dû pour une nouvelle génération bientôt. Donc, il arrive dans un segment où les véhicules, là, il n'y a pas de nouveaux véhicules, le Frontier, le Tacoma, il n'y a pas de grosses nouveautés dans le segment. Je pense même que c'est peut-être le Tacoma qui est le plus récent. Mais ça reste un véhicule qui se compare à tous les niveaux avec le reste. Là. C'est pas, il est pas en arrière non plus. Ce qu'on déplore un peu, c'est bon le plastique à l'intérieur. Je pense qu'on va faire une mise à jour du véhicule. Mais au niveau mécanique, au niveau logabilité, comportement, on sait le moteur est peut-être un peu bruyant, mais ça se compare avec le reste. La boîte est bien aménagée. Donc, c'est un véhicule que moi, je recommande sans problème, le Ford Ranger. Mais on peut pas dire que c'est le meilleur de la catégorie ou c'est le pire. Sont à peu près égaux.
Ça va?
Oui, ben la dernière chose que je veux savoir, c'est est-ce qu'il est au courant ou est-ce que c'est une rumeur ou quoi que ce soit? Moi, j'en entends parler quand même beaucoup. L'avenue des véhicules électriques, il semblerait qu'il y a un projet de taxation à l'usage qui est en... sont en train d'écrire ça pour essayer de compenser les taxes et carburants.
Non, ben là, je pense qu'on va passer davantage par l'augmentation d'électricité, mais pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter parce que la voiture électrique arrivera pas en grand nombre demain matin. Donc, on voit que de plus en plus, ça commence à arriver, non. Mais les concessionnaires auto qui vendent ces voitures électriques-là, là, c'est pas le Klondike pour eux autres. Là. Les voitures sont là et vous allez chez Kia, vous allez être capable de partir avec une Soul électrique, vous allez être capable de partir avec des véhicules. Alors, moi, je pense que faut attendre. Oui, on va sur... Écoutez, les revenus de l'essence, on chiale contre l'essence. Moi, le premier, on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Sauf que, force est d'admettre que les revenus de l'essence, parce que les gouvernements, d'une main, on prône, d'un côté de la bouche, on prône la voiture électrique, puis de l'autre côté, on tend la main pour ramasser l'argent de l'essence. Fait que cet argent-là va dans le fonds consolidé et sert à faire vivre tous les programmes sociaux. Donc, on va devoir pallier ce manque d'argent-là, mais hey, c'est pas demain matin. Là, ça va prendre beaucoup de temps, moi, je pense, une bonne décennie avant de voir l'impact.
Merci.
Alors, au revoir. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.
Martin demande ce que tu penses d'une Honda Fit Sport 2014 automatique 120 000 km pour lequel on demande 9 600 $. Est-ce que c'est raisonnable?
Pour ce qui est du prix, je vais revenir, mais la Fit Sport, j'ai rien à dire. C'est dépêchez-vous, regardez le niveau d'usure, s'assurez qu'il n'y ait pas d'usure prématurée sur le véhicule. Vraiment, là, c'est une bonne petite voiture. Au niveau du prix, il n'y en a pas. Alors, ça, c'est sûr qu'il va falloir regarder du côté des comparables avec le même kilométrage ailleurs. Mais si vous avez une petite voiture comme ça, moi, je pense que c'est dans les prix. Quelle année, Myriam?
2014,
je pense que c'est raisonnable comme prix. C'est dans la gamme.
C'est
comme je peux voir, c'est pas très vieux. Et ils sont assez rares. Si elle est en bon état, allez-y, moi, j'ai pas de problème.
Pascal?
Mon nom de gloire. Alors, une auditrice te demande. Je me demande toujours les grosseurs des VUS. Je cherche un petit VUS. Serait-ce juste de dire qu'il y a dans la même catégorie Kona CX-3, ensuite un peu plus gros RAV4 CRV, Tucson et Sorento?
Tucson, il est dans le Tucson, parce qu'on prononce Tucson comme la ville de Tucson.
C'est bien ce que j'ai dit.
Oui. Est avec le Kona et le CX-3.
Donc, okay. C'est un peu HRV. Plus gros,
c'est
le
un
RAV4.
Peu plus petit. Et le RAV4, CRV, etc., est un peu plus gros.
OK.
Donc, c'est cette catégorie-là. Et la plus populaire des catégories, là, c'est la catégorie du Kona, CX-3, Tucson, okay. C'est vraiment...
Si elle veut un petit VUS...
C'est dans cette catégorie-là, HRV, CHR du côté de chez Toyota, même s'il n'est pas...
Il est un peu bizarre, là,
ce HR. On a fait une mise à jour, là. Ouais. On l'a débizarré.
On l'a débizarré. Ouais. OK. Sylvie est au bout du fil. Bonjour, Sylvie.
Bonjour. Moi, je voulais savoir, entre le Hyundai Tucson et le Kia Sportage, si c'est le Hyundai, le Luxury, la catégorie, et le Kia, ce serait le Premium dans les deux, au niveau de la consommation d'essence, la qualité des deux produits, les garanties, toutes ces choses-là, lequel des deux serait mieux?
Bien, vous parlez de jumeaux ici, fait que dans une famille, on veut pas blesser ni un ni l'autre, mais vous devez y aller avec le style, parce que le Tucson va être quand même remodelé très prochainement, ainsi que le Sportage. Le Sportage, année modèle, je pense, 2019, va arriver avec sa petite mise à jour, ou ça va être l'année modèle 2020, là, je peux pas... Je me souviens pas exactement, mais c'est la même plateforme, c'est la même base, puis on partage beaucoup de mêmes éléments mécaniques.
Mais le 2020 est déjà arrivé.
Ça dépend du style que vous aimez. Moi, j'aime un petit peu plus le côté du sportage parce que je trouve au niveau des lumières, je trouve même qu'il ressemble un petit peu au Porsche Macan. Donc, j'aime bien le côté du sportage. Mais au niveau de la qualité des véhicules, économie de carburant, écoutez, ce qu'il faut faire attention du côté du Tucson, pour moi, c'est le 1.6. Avec une transmission double embrayage. Il y a la transmission double embrayage qui se comporte...
Il y en a plus de ça. C'est les 2.4, les deux.
C'est les deux. C'est le moteur très connu du côté de chez Hyundai. Si vous n'allez pas dans les mécaniques turbo, il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est...
L'autre Tucson, eux autres, c'est encore des turbos.
Oui, mais...
Le Kia, c'est du turbo.
Le Kia, vous avez le 2.4 aussi dans le sportage que vous pouvez avoir.
Oui, mais c'est avec du turbo. Donc, parce que j'ai été les voir sur place, là.
Moi, j'ai pas de problème avec si vous regardez, c'est seulement la transmission du Tucson, dépendamment de qu'est-ce que vous regardez, mais au niveau des véhicules, c'est la même chose, c'est la même plateforme, c'est les mêmes mécaniques.
Donc, c'est un choix esthétique.
C'est frères et sœurs dans la même famille, donc c'est votre choix personnel.
C'est un choix esthétique, dans le fond.
C'est un choix esthétique.
Okay.
Ça vous va? Merci Sylvie.
C'est bon.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Quelqu'un me dit, j'ai toujours eu des Allemandes, des Mercedes, des Porsche. Maintenant, ma situation fait en sorte que je n'ai plus les moyens de suivre mes goûts. Que me conseillez-vous comme berline pour faire mon deuil? Je voudrais payer 20 000 $ usagés.
Donc, est-ce que on veut faire... Oui. On est habitué dans le haut de gamme, là. Donc, si on veut rester dans le haut de gamme, on va devoir, pour 20 000 $ sacrifier quelques années modèles. Si on veut pas trop sacrifier quelques années modèles, j'en ai parlé tantôt, dans les berlines intermédiaires, on peut s'amuser en masse avec, si on veut aller chercher du luxe, puis pas trop d'années en arrière, une Mazda 6, par exemple, va vous donner beaucoup de luxe, des beaux cuirs à l'intérieur. Donc, si vous allez dans les intermédiaires, qu'on a nommé Altima. Mazda 6 est un choix. La Camry est un autre choix. Dans ces véhicules-là, vous allez pouvoir trouver du luxe, du confort, tous les éléments que vous avez de besoin, sans débourser, évidemment, trop cher. Puis vous allez trouver de la qualité.
OK. Donc, il y a moyen...
De la fiabilité, de la qualité.
Pour 20 000, il est dans capable de faire son deuil de façon élégante.
Ben oui, dans les 20 000, là, de façon
Daniel, effectivement. Avant de retourner au téléphone, avant la pause, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour te demander ce que tu pensais de la Fiat 500 2013.
Oh boy, 2013. Ça c'est une petite voiture sourire qui malheureusement se dégrade assez rapidement. Donc, si on est en amour avec cette voiture-là, ça n'a pas été la catastrophe annoncée, par contre. Il y en a qui annonçaient vraiment des catastrophes épouvantables. Mais c'est pas une voiture de très grande qualité. Donc, faut pas payer cher pour avoir cette petite voiture-là et se gâter, faire l'inspection mécanique. Mais faut garder en tête que la dégradation du véhicule est assez rapide. Donc, inspection minutieuse, s'assurer que toutes les poignées de porte sont à leur place, s'assurer que la peinture ne décolle pas, que tous les accessoires sont là, les boutons, les accessoires. Donc, il faut vraiment vérifier de ce côté-là
c'est
pour
s'assurer. C'est le genre
s'assurer.
De véhicule avec lequel les gens tombent en amour, littéralement.
Oui, tu sais, on l'abandonne aussi du côté de chez Fiat Chrysler. Mm-hmm. On passe à autre chose. On voulait amener ou importer juste la version électrique. Ouais. Je pense qu'on est en train de passer à côté. Donc, moi, si c'est possible, oui, je trouve qu'elle est cute, mais si c'est possible, on passe à autre chose.
Avant d'aller à la pause, Michel au bout du fil. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Actuellement, je suis en quête d'acheter ou de louer une auto. Et puis, je suis allé voir la CX-60 de Volvo. Et aussi la nouvelle Outback
Subaru.
La nouvelle Outback.
Subaru Outback, oui.
Oui, de Subaru. Et puis, je me demandais ce que vous pensez de ces deux autos-là.
Bien, si vous m'en donnez une, je prends la Volvo. Là, je sais pas pour vous, mais c'est sûr que je prends la Volvo. Le style est extraordinaire là, au niveau de Volvo. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ces belles voitures. La XC60, à partir de la... Dès qu'ils l'ont apporté avec sa nouvelle génération, c'est une voiture qui est bien construite. C'est pas d'histoire d'horreur, fiable. et qui se démarque là au niveau du style. Alors moi, c'est sûr que je prends la XC60. La Outback, c'est pas une mauvaise voiture. Au contraire, c'est une belle voiture, bonne traction intégrale également, bon niveau de fiabilité, économie. Il n'y a pas de problème avec la Subaru. C'est une voiture plus commune. Mais si vous me donnez le choix entre les deux, je prends la Volvo.
OK. Puis la Volvo, au niveau du service, c'est pas un problème?
Ben, il y a certaines personnes, mais ça, là, le service, je veux pas embarquer là-dedans parce que il y a des gens qui adorent le service chez un concessionnaire, puis chez le même concessionnaire, il y en a un autre qui déteste puis qui disent que oui, c'est des ci, des ça, puis fait que ça dépend de vous. Puis vous savez, depuis que les voitures sont rendues beaucoup plus fiables, entre autres du côté de chez Volvo, le service est amélioré. Fait que parle-moi d'une voiture fiable, m'a nommé un bon service.
Oui, ils ont agrandi aussi le garage chez Volvo à Québec. Ils ont agrandi le garage beaucoup. Là.
Ben, moi, vous dire une affaire, vous venez de me convaincre.
Non, parfait.
Bonne chance, Michel. Il est 9h27, on va faire une petite pause. On va te laisser prendre une gorgée d'eau. Et on se retrouve tout de suite après. Il y a plein de questions. J'ai de la misère à suivre le rythme.
Avec Daniel Boudreau.
Plein de questions qui nous arrivent sur les voitures. Daniel, on va commencer par Pascal.
Oui, j'ai une question quand même assez comique qui dit « Monsieur Boudreau, ma vieille Santa Fe 2007, nommée affectueusement Cher, comme la chanteuse parce qu'elle est refaite au complet, a du mal à prendre son accélération. »
À coûter cher.
À refaire. « A du mal à prendre son accélération. À un moment donné, il faut que je donne un petit coup en haut de 80 km/h. Pourquoi? » Ça dit quelque chose.
Il peut y avoir plusieurs causes. Donc, ça peut être soit au moteur, soit à la transmission. Je vote un peu pour la transmission parce que je sais qu'ils ont eu quelques petits problèmes de transmission de ce côté-là. Donc, vérifier que l'entretien est de la transmission. Donc, faire peut-être un entretien de transmission. Regardez de ce côté-là si vous jugez. Parce que lorsqu'il y a un manque de puissance au niveau du moteur, c'est facile, on s'en aperçoit très rapidement, mais lorsqu'on a un manque de puissance au niveau de la transmission, ça peut sembler, on appuie, ça glisse, il y a un genre de glissement parce que, il se passe quelque chose à l'intérieur de la transmission, ce qu'on appelle, là, bref, la transmission glisse, pour rentrer dans les détails, mais ça, c'est un peu moins perceptible parce que le moteur te donne une bonne révolution moteur, puis souvent, on voit la révolution moteur monter. Donc, moi, je vote un peu plus du côté de la transmission.
Éric et Pierre ont la même question. Le meilleur VUS hybride rechargeable?
Bien, le meilleur rapport qualité-prix, c'est du côté de Mitsubishi. Là, faut aller du côté du Outlander PHEV pour ce côté-là. Sinon, on s'en va dans le haut de gamme. Et dans le haut de gamme, si on va chercher du côté de chez BMW, du côté de chez Mercedes ou les autres, on va payer cher. Ça va être cher. Et deux, si on a les moyens, c'est pas grave. Et deux, on n'a pas l'autonomie du... on va aller chercher à peu près 30-40 km d'autonomie pour un prix très élevé. Donc ça dépend de vos affaires, là, si vous voulez. Mais du côté du X5 de BMW, c'est sûr que ça va être une meilleure voiture, une meilleure qualité si vous allez dans l'autre gamme qu'un Outlander PHEV. Un meilleur rapport qualité-prix, c'est un Outlander PHEV, sans aucun doute.
Et si c'est pas rechargeable, un hybride, VUS?
Ben là, Porsche Cayenne.
La Porsque Cayenne?
Ben oui.
Okay. Pensais que tu allais me répondre le RAV4.
Mais la Porsche Cayenne.
Ben là, tu demandes le meilleur. Je peux pas te dire qu'un RAV4 est meilleur qu'un Porsche Cayenne.
Pas le meilleur pour le portefeuille, par exemple.
Rapport qualité-prix, c'est le RAV4 de loin, puis il va garder sa valeur de revente très longtemps.
OK. Je pense à m'acheter un Ford Expedition King Ranch 2020. Mm-hmm. Est-ce que c'est un bon véhicule?
Ben oui.
Est-ce que ça va sur les routes de Gravel?
C'est fait pour ça. Faut que ça... Tu dois... C'est sûr que lorsqu'on le regarde, c'est tellement luxueux, surtout le King Ranch. Là, on a des cuirs incroyables à l'intérieur. Là. Si tu regardes le véhicule, tu te dis, je peux pas vous mettre ça dans le bois, sur des chemins de gravier, puis aller faire du hors-route avec ça, c'est certain. Mais c'est fait pour ça. C'est un camion. C'est un dessous de camion. C'est de la mécanique de camion. Ça partage la plupart de ses composantes avec un F-150. Donc, c'est un camion. C'est à l'aise quand ça travaille, quand ça traque. Alors oui, aucun problème avec ça. En plus, il est rendu tout aluminium, tout un véhicule.
Le Ram EcoDiesel 2019, qu'en penses-tu?
Oui, si vous avez besoin, écoutez, le diesel, on ramène le diesel du côté de chez GM, on ramène le diesel du côté de chez Chrysler. Et il faut pas oublier que ces véhicules-là sont souvent, parce qu'on les voit toujours en arrière, là, à tracter une roulotte à sellette pour les loisirs, mais c'est des véhicules pour travailler. Donc, les gens travaillent avec ces véhicules-là. Le moteur diesel s'adresse à principalement à ces gens-là. Si tu travailles avec ton véhicule, tu veux faire de longues distances avec un seul réservoir, tu veux pas toujours aller chez le concessionnaire, donc tu vas avoir des entretiens plus éloignés. Donc ça, c'est des avantages majeurs et tu as une bonne valeur de revente à la fin parce que tu as payé 5 000-6 000 $ de plus pour un moteur diesel, mais au bout de la ligne, tu le récupères. Et les gens qui achètent ces trucks-là, plus loin, donc qui ont du kilométrage. Si c'est un moteur diesel, ça fait moins peur que si c'est le moteur régulier pour la plupart des gens. Alors moi, oui, il est économique. Tu peux tracter avec quand même de bonnes charges et évidemment, là, tous les avantages que j'ai nommés tantôt.
Quelqu'un dit, j'ai un hotback de 4 cylindres et une tente roulotte de 2000 livres. J'adore ma hotback, mais je veux changer ma tente roulotte pour une roulotte hybride qui, elle, va peser 4000 livres. Mm-hmm. Quel véhicule me suggérez-vous? Et dans le meilleur des mondes, une hybride. Pense qu'il n'y en a pas d'hybride.
Oubliez l'hybride, là.
C'est 1500, les hybrides, hein?
Oui, c'est 1500, puis c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Là, 4000 livres, la roulotte, après avoir passé dedans, lorsqu'on a les chaises de patio, les ci, les ça, le barbecue, puis tout ce qui vient avec, là, comme bagage, ça pèse. Donc, faut aller dans le 5000 livres minimum comme capacité de remorquage. Et là, on a un bon choix dans ce côté-là. On a les Highlander Honda Pilot qui sont très forts dans ce segment-là. On peut aller du côté du Ford Explorer également. C'est un autre bon choix. Kia Sorento. Kia Sorento, c'est un bon rapport qualité-prix dans cette catégorie-là. Donc, version V6, évidemment, peut faire le travail également. Faut aussi que toute son attache remorque soit vraiment fait avec ce qu'on appelle les barres de torsion, donc les barres de soutènement. C'est bien important pour garder le véhicule à plat. Donc, moi, je pense que faut s'en aller dans ces véhicules intermédiaires-là.
Il y a quelqu'un qui te demande, j'aimerais savoir ce que ferait M. Boudreau à ma place. J'ai un rendez-vous dans 2 semaines pour faire traiter ma T3. Mes Tesla me disent qu'ils annulent la garantie de 12 ans sur ma garantie de peinture si je fais traiter à l'huile. Est-ce que tu ferais traiter quand même?
Non.
Sur les voitures électriques, je pense qu'on n'a jamais le droit de traiter la voiture.
Ceux qui traitent les voitures disent que oui parce qu'ils veulent traiter les voitures, mais Tesla joue pas, là. Tesla, si il annule la garantie, il l'annule. Les autres manufacturiers, il y a moyen de jouer encore un petit peu avec eux autres et d'aller chercher. Mais avec les problèmes de peinture, d'écaillement de peinture naturelle de Tesla qui reprennent déjà, si vous avez ce problème-là, vous allez devoir payer, là. Donc, moi, je toucherais pas à ça, mais pas du tout. Donc, pas d'antirouille du côté des Tesla.
Moi, je me suis laissé dire que les voitures électriques, règle générale, il faut pas faire de traitement à l'huile. D'ailleurs, récemment, là, il y a quelqu'un, j'ai acheté une voiture qui est partiellement électrique, puis c'est une des premières choses qu'on m'a dites. Pas de traitement à l'huile sur cette voiture-là.
Pourquoi, hein, Daniel?
Ben, c'est la conductivité, d'après moi, qui fait peur, parce que l'huile, évidemment, là, c'est pas... Et les composantes électriques, avec toutes les fils, les couettes de fils, je trouve que effectivement ils ont raison. Même si c'est sécuritaire, même si on peut passer d'une flaque d'eau là à pleine vitesse, puis donc on sera pas électrocuté, là. Sauf que pour les composantes, beaucoup de caoutchouc, beaucoup de fils en dessous, on veut pas prendre de chance.
Mais
moi,
peut...
je pense que il y a certains endroits où on pourrait traiter, tu sais, les ailes, les tours d'ailes, des endroits au niveau de la carrosserie où on touche seulement à la carrosserie, pas nécessairement au plancher. Je pense que ça pourrait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes là, mais bon, on veut pas prendre de chance.
Mais c'est parce que ça peut nuire à l'état de la voiture à long terme.
Ça va nuire, surtout nous. Mais il faut pas oublier que ces voitures-là sont on pense pas beaucoup au Québec là, lorsqu'on construit une voiture de la part des manufacturiers. C'est des voitures qui davantage sont construites pour des climats moins rigoureux que nous. Alors, c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des restrictions qu'on voit pas ailleurs. Et la preuve qu'on pense pas nécessairement au Québec ou à l'Amérique du Nord ou au Canada, même peut-être un peu plus, c'est que là, Volkswagen a présenté une belle petite ID.3 au dernier salon de Francfort, une belle petite voiture électrique. Puis là, on apprend qu'elle est propulsion.
Propulsion? Propulsion. Ah oui, les roues arrière qui tournent.
Ouais,
c'est ça, dans la neige, là, c'est toujours le fun, ça. Hein?
Fait que c'est pas adapté pour nous ici. Puis là, on apprend qu'elle n'arrivera pas, évidemment, ici. On va attendre la version de cette voiture-là. Ils vont prendre cette voiture-là, ils vont faire une version SUV, donc VUS. Donc, tu vois que...
Ils vont s'ajuster.
On pense pas nécessairement à nous lorsqu'on construit ce type de véhicule-là.
Question d'un auditeur. Niro, PHEV ou Bolt? La Niro, c'est un petit VUS de Kia, si je me trompe pas.
Ouais, la Niro, la grande oubliée, même moi, je pense pas souvent à cette petite voiture-là. Puis, version hybride, version branchable, version électrique. Vraiment, là, elle est complète, cette petite voiture-là.
Je l'ai conduite l'autre jour, j'ai trouvé ça.
Ça va bien, c'est intéressant, c'est un bon format. La Bolt, c'est le manque d'espace qui, moi, j'ai rien contre la Bolt, là, mais le manque d'espace à l'intérieur, moi, c'est quelque chose que, pour moi, je choisirais la Niro.
Est-ce qu'elle a la même autonomie?
Ben, la Niro électrique, on va chercher, oui, à peu près, là, 385, si je me trompe pas, dans ces eaux-là. Je crois qu'il y a seulement le Kona qui dépasse le 400. Mais si on est dans ces eaux-là, il n'y a aucun problème pour du côté de chez Niro. On va être nez à nez avec la Bolt. Si vous aimez le style, parce qu'il y en a qui aiment le style de la Bolt, l'intérieur, pour vous, l'espace, vous en avez pas besoin et tout. Mais regardez les sièges, le confort des sièges de la Bolt. La Niro est plus confortable. L'environnement est plus, entre guillemets, normal comme voiture que la Bolt. Mais si vous aimez ça plus éclaté, différent, vous allez prendre la Bolt. C'est deux bonnes voitures là, dans le segment des véhicules électriques. C'est deux bonnes voitures. Alors, vous choisissez celle que vous voulez, mais pour le comportement d'une voiture un peu plus normale, c'est la Niro.
Veracruz 2010, V6, 92 000 km, 11 000 $. Qu'en pensez-vous? C'est quoi la Veracruz? Oui.
C'est la première expérience de Hyundai dans le véhicule de luxe.
Ah oui?
Parce qu'on voulait faire un sport utilitaire de luxe. On a essayé de se faire un nom avant de créer la division Genesis pour prouver qu'on était capable de faire de bons véhicules luxueux. Ben là, on a décidé de faire un SUV, un VUS. Je dis souvent un VUS. Les deux sont français, de toute façon.
SUV?
Oui.
Ouais, je sais pas.
Mais dans le sport utilitaire, on voulait se prouver qu'on pouvait faire un véhicule plus luxueux. Ça a donné le Veracruz, très bien construit. Belle construction. Moi, je regardais en dessous du véhicule. Le plancher, c'est impeccable, la façon que c'est fait. Alors, inspection mécanique, si on vous dit que tout est beau au niveau de l'inspection mécanique, allez-y. C'est une bonne mécanique, la motorisation. On utilise encore une version de ce V6-là aujourd'hui, modernisé, là, mais on utilise encore une version de ce V6-là. Donc, moi, j'ai pas de problème avec le Veracruz.
On fait une petite pause, Daniel. Ah ouais? Après ça, il y a quelqu'un qui te demande anti-rouille. Quel type d'anti-rouille faut-il prendre? Électrique, à l'huile ou paraffine? La réponse après la pause.
Que Québec se dit. FM 93. Que Québec se lève. Chronique Virage. Avec Daniel Boudreau.
Daniel Boudreau est avec nous, donc, pour répondre à vos questions sur les voitures. Et j'ai déjà annoncé la prochaine question. Anti-rouille, tu conseilles électrique, à l'huile ou paraffine?
Paraffine. On a une durabilité, ça coule pas, ça demeure en place. Et la plupart des endroits sérieux qui appliquent l'anti-rouille vont vous proposer ce type d'anti-rouille. À l'huile, très bien. Là. À l'huile, j'ai pas de problème avec ça si c'est bien fait, mais il y a des chances que ça coule un peu plus. Maintenant, ils ont des
donc tu vas parquer ton char dans l'entrée du voisin.
Ouais, c'est ça. Ils ont de l'huile qui est un peu plus épaisse là, qui coule moins ou peut-être pas là, dépendamment que s'il fait pas trop chaud. Donc si vous voulez à l'huile, allez-y dans une période où c'est un peu plus frais là, attendez encore 2-3 semaines et aller faire installer, donc vous allez avoir, ça coule moins. Mais dans l'anti-rouille, moi, c'est toujours la même chose. C'est pas nécessairement parce que d'un endroit à l'autre, vous allez avoir des produits de qualité idéale. Ce que moi, je suggère de faire attention, c'est au niveau de l'application. C'est là que ça démarque. De l'antirouille, si vous en avez pas ou si votre l'endroit où vous faites appliquer l'antirouille n'en met pas partout, dans le véhicule, ben s'il n'y a pas de produit, ben ça va rouiller. Donc, c'est l'application qui fait toute la différence au monde. Okay. Si tu as beau avoir le meilleur produit, là, s'il n'y en a pas, ça va rouiller.
Ça
fait que ça, là, ça fait attention. C'est l'application qui fait toute la différence. Vous assurez que vous êtes dans une bonne maison puis que vous assurez, restez proche. Vous assurez qu'il en pose partout.
Ah oui, tu restes proche, toi? Moi, je rabandonne mon char et je m'en vais me promener.
Ouais, c'est ça.
T'es un petit sceptique.
Mais quand même,
ben oui,
c'est quand même, je resterais proche, là.
Je ne
veux pas le voir.
Il a tendance à aller un petit peu plus partout.
Il se sent surveillé,
là,
hein?
Il y a des endroits, là, dans une voiture, il se sent surveillé.
Mais moi, je m'appelle Seigal, toi, tu t'appelles Boudreau. Toi, ils vont avoir peur de toi parce que tu connais ça.
Amène Daniel avec toi.
C'est ça, solution.
Mais chose certaine, on peut-tu entrer dans ces endroits-là ou c'est dans le garage en arrière?
Ben, reste pas loin.
Pas avoir l'air d'une petite germaine.
Ben oui, mais tu restes pas loin, tu essaies de trouver vite, tu essaies de rester pas. Tu sais, quand tu restes autour, souvent ça travaille un petit peu plus fort.
Kia Sorento 2014, 80 000 km, bonne condition. Quel prix serait raisonnable?
Un Sorento 2014?
Ouais.
Quel kilométrage?
80 000.
80 000 km 2014, 14 000 dans ces eaux-là.
Et comment on fait pour établir ça, Daniel? Tu vas sur
comparable, c'est
tu
toujours
vas sur Autoedo puis tu essayes de voir à quel prix les gens essayent de vendre.
Là, comme ailleurs, n'importe quel site, on se promène dans les cours de concessionnaires et on va chercher des véhicules comparables pour voir même année, même kilométrage, même motorisation et on regarde les véhicules. C'est toujours là que ça va nous donner la meilleure indication. On s'en va chercher des comparables. Mais dépendamment de l'état du véhicule, si les pneus, les freins, il peut avoir... Parce que chaque véhicule, l'occasion est unique. Là, on s'entend. Ouais. Il n'y a pas de secret, là. C'est... Mais si tu en as un, que les pneus sont finis, les freins sont finis, puis il est graffiné partout, il va coûter 2 000, 3 000, 4 000 de moins que l'autre. Donc, il peut y avoir une grosse... variation de prix, mais on va chercher des véhicules comparables dans un état comparable, puis on va avoir une bonne idée.
Pour environ le même prix, Toyota RAV4 neuf ou un Audi A3 à peine usagé. Je recherche de la fiabilité et une voiture qui ne rouillera pas.
RAV4 neuf, on se pose pas de questions, on embarque là-dedans, puis on s'en va.
Ah oui?
Oui, l'A3. De toute façon, faut aller essayer le petit Audi pour voir que c'est une catégorie même qui est plus petit un peu que le RAV4. Puis vous allez voir, vous allez être surpris du comportement. Si vous voulez avoir, parce qu'on achète un Q3, là, puis on a un véhicule haut de gamme, belle finition intérieure, beau cuir, tout ça, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais si on cherche de la fiabilité à long terme, allez essayer le RAV4 neuf, puis vous allez être surpris.
Daniel s'inquiète des coûts d'entretien éventuels d'une Audi 2016 Q3, 20 000 kilos. Est-ce que c'est coûteux d'entretien, ces véhicules?
Non, c'est pas très coûteux d'entretien. Souvent, on va avoir des petites affaires à gauche et à droite, là, au niveau, surtout des fois au niveau électrique. C'est pas très coûteux d'entretien, mais lorsque tu remplaces les freins d'un Audi Q3 comparativement à un RAV4, c'est pas tout à fait le même prix. Donc,
okay.
À chaque fois que c'est possible, vous achetez des essuie-glaces, ils vont vous rappeler là, que vous avez un haut de gamme. Fait que haut de gamme et économie, là, ça va pas nécessairement dans la même phrase. Donc, si tu acceptes de t'en aller dans une division plus haut de gamme, tu vas avoir des essuie-glaces de meilleure qualité.
Tu vas les payer.
On dit que c'est plus cher, mais tu payes pour de la qualité.
Oui, mais faut avoir le budget à long terme, tu sais, parce que ça peut devenir anxiogène, là, si t'as une voiture de luxe, puis que malheureusement, tu t'es dit sur le coup, je suis capable, mais dans un an, je sais pas si toutes les réparations.
Vends-la, débarrasse-toi-en, parce que si tu prends la décision de t'en aller dans l'autre gamme, c'est que tu gères.
Tu peux l'assumer, c'est ça.
Tu peux l'assumer, là. Tu dis, OK, je l'assume. Et si ta situation financière change, change d'auto.
Daniel, il y a quelqu'un au téléphone, Alain, qui avait une question pour toi au niveau de l'antirouille.
Mm-hmm.
Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Allez-y,
bonjour.
Posez votre question à Daniel.
Oui, c'est parce que vous avez omis de parler de l'antirouille électronique tout à l'heure.
Ouais, c'était volontaire.
Non, c'est parce que j'en ai un justement. C'est quoi le bug?
Ben moi, je crois pas vraiment à la conductivité partout du véhicule. Maintenant, avec les pièces et composantes, si on regarde en dessous du véhicule, D'abord, sur plusieurs véhicules, vous avez de l'aluminium, vous avez différents matériaux. Il n'y a pas juste de l'acier. En dessous, tous les coussins, toute la carrosserie repose sur des coussins de caoutchouc maintenant. Comment ça fait pour traverser tout ça? Moi, je suis sceptique, puis c'est pour ça que j'en parle pas. C'est ça.
Mais l'électronique,
c'est que tu as une charge électrique partout autour de ton véhicule.
Ah,
alors,
okay.
Est-ce que, avec les nouveaux matériaux maintenant que l'industrie automobile utilise, est-ce que c'est vraiment efficace? J'ai un doute. Alors, dans le doute, on s'abstient.
Moi, je l'ai présentement sur un RAV4 qui a 4 ans et demi.
Ouais.
Puis, il n'y a pas une graine de rouille qui paraît à nulle part, là.
On se reparle dans 5 ans.
Des RAV4 de 4 ans et demi qui n'ont pas d'antirouille électronique, même pas d'antirouille du tout, ils vont être encore très beaux.
Donc, oui. Les huiles, est-ce que ça affecte pas justement les composantes de caoutchouc puis tout qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous du véhicule?
Ben, si vous faites installer un endroit qui sont assez caves pour shooter de l'antirouille directement sur les caoutchoucs, les soufflets et tout ça, allez-vous-en de là au plus vite, là, parce que normalement, ils n'en mettent pas sur ces endroits-là. On évite.
Ouais, le fioum peut quand même. C'est fait sous pression, oui. Le fioum, ça vole partout.
Je suis d'accord, mais c'est pas le plancher qui m'inquiète. Moi, lorsqu'on fait un antirouille, c'est surtout à l'intérieur des portières, à l'intérieur des ailes. Là où ça rouille le plus souvent, c'est moins le plancher directement en dessous.
Merci Alain, bonne journée. Une petite dernière vite, conseillez-vous le rachat de ma location Sportage 2017, 9800 km, pas beaucoup,
non.
Mais 16 300 $.
On rachète ça, 9000 km, vous avez payé probablement pour 20 000 km par année, 22 000, 24 000 km par année, donc au niveau du kilométrage, votre véhicule a une bonne valeur. Vous le connaissez, il y a seulement 9000 km. Il est neuf, on rachète ça.
OK. On va se...
Il y a des gens qui vont être déçus, hein? À chaque fois, Dan.
C'est plein de temps. C'est fini.
Mais c'est fini, déjà.
On n'a plus le temps. Là, c'est...
Grande messe du rock.
On peut juste dire bonjour à la semaine prochaine. Daniel, se reparle. On va se reparler dans 3-4 semaines. Là,
quand vous voulez, je suis là. J'attends. Je suis toujours là. J'attends. J'ai le téléphone dans les mains. J'ai dit, Myriam, vas-tu m'appeler?
On va se refaire une autre séance d'ici 2-3 semaines.
Profite du beau temps.
Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci à tous mes complices, Alexis Sanson, Pascal Caron-Vézina.
Un plaisir.
Dans quelques instants, Yvon Delisle est là avec la grand-messe du rock.
Le rock à Québec.
C'est pas parce que c'est le week-end qu'on ne veut pas être informé.